Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. À 18h20, je recevrai le président les Républicains de la région Grand Est, Jean Rottner, pour commenter le plan de déconfinement en quatre étapes présenté par Emmanuel Macron dans la presse régionale. Ça y est, on le connaît, 3 mai, 19 mai, 19 juin, 30 juin. On va le détailler tout à l'heure dans le journal, bien sûr. Le regard de Jean Rottner est doublement intéressant puisqu'il est également médecin urgentiste. À partir de 18h30, avec les grandes voix d'Europe 1, on reviendra bien sûr aussi sur ces annonces, sur le fond comme sur la forme. L'idée de déconfiner par territoire est abandonnée. Des passes sanitaires seront nécessaires pour rentrer dans certains lieux. Le président qui mise tout par ailleurs sur la campagne de vaccination, mais qui pour autant n'envisage pas de l'ouvrir pour tous, en tout cas pas pour l'instant. À 19h20, ce sera notre grand débat du Club des Idées et ce soir on s'intéressera au boom de la vente en vrac. Les supermarchés sont priés de s'y mettre au moins 20% de leurs marchandises d'ici 2030. Un marché en plein développement qui intéresse les marques, mais qui nécessite des investissements, des précautions particulières également en matière d'hygiène notamment. Mais avant cela, l'info avec le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Merci d'écouter Europe 1, il est 18h.
On a enfin une date, donc ça c'est super cool. Ça va nous permettre de refaire notre métier. Du coup, les gens vont enfin pouvoir réellement avoir un petit peu de vie en dehors du travail. C'est une excellente nouvelle.
C'est une excellente nouvelle. Le calendrier du déconfinement est fixé. 4 étapes entre le 3 mai et le 30 juin. Si tout va bien, Emmanuel Macron a tranché.
Le couvre-feu débutera à 21h à partir du 19 mai. Ce sera 23h le 9 juin. Et ce sera fini le 30 juin.
Le 19 mai, les terrasses, les cafés, des restaurants pourront rouvrir. Réouverture aussi pour les commerces, les musées, les cinémas et les théâtres. Le calendrier précis, les modalités et le protocole de déconfinement en détail dès le début de ce journal.
Pourquoi ne pas vacciner les adolescents ? Pfizer va demander à l'Europe l'autorisation d'utilisation de son vaccin pour la tranche d'âge des 12-15 ans.
Des sanctions contre les militaires qui ont signé une tribune dans Valeurs Actuelles. 18 soldats toujours en activité vont passer devant un conseil militaire. Ils risquent de lourdes sanctions.
Le foot, Paris, battu mais pas abattu après sa défaite 2-1 hier soir face à Manchester City. Les joueurs sont même persuadés de pouvoir renverser la vapeur mardi prochain.
La Bourse de Paris quasi stable, moins 0,07% à 6302 points.
La météo, bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Et encore une journée humide demain.
Oui, surtout dans le sud où en fait nous avons un épisode pluvieux qui va durer plusieurs jours. La journée la plus critique à prévoir, c'est samedi, avec l'équivalent d'un mois de pluie prévu sur la seule journée de samedi. On aura l'occasion d'en parler et puis on va s'intéresser beaucoup au sud-est effectivement pour la situation de demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Alors ce retour à la normale, c'est pour quand ? Eh bien nous avons plus qu'un début de réponse ce soir. C'est une information que le service politique d'Europe 1 a révélée en début d'après-midi. Le président Emmanuel Macron a tranché. Ce sera un déconfinement en quatre étapes et qui va s'étaler sur pratiquement 2 mois.
Et on va voir cela avec vous, Louis Dragnel. Le président a donc choisi de lever progressivement les restrictions. Ça se fera donc en quatre étapes.
Alors, première étape, le 3 mai, avec le maintien du couvre-feu et du télétravail, la réouverture des collèges en demi-jauge pour les classes de 4e et 3e, tout comme les classes de lycée. À noter aussi un symbole, la fin des attestations pour les déplacements en journée et la fin des restrictions de circulation. Ensuite, deuxième étape, le 19 mai. Le couvre-feu sera décalé à 21h, télétravail maintenu mais réouverture des commerces avec des jauges. Les terrasses pourront ouvrir avec des tables de 6 personnes maximum. Les musées, cinémas et tous les lieux de culture pourront aussi accueillir du public avec une jauge de 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. Idem pour les activités sportives dans les lieux couverts et en plein air qui devront suivre des protocoles sanitaires spécifiques. Pour cette deuxième étape, enfin, les rassemblements de plus de 10 personnes resteront interdits.
Autre rendez-vous, Louis, pour ce déconfinement, ce sera juin avec 2 étapes là encore, le 9 et le 30 juin.
Absolument. Tout d'abord le 9 juin donc, avec décalage du couvre-feu à 23h et assouplissement du télétravail. Les cafés et restaurants rouvriront toujours avec cette jauge de 6 personnes par table et avec des protocoles spécifiques. Les lieux de culture, tout comme les salons et foires d'exposition, pourront alors accueillir 5000 personnes, tout comme les établissements sportifs, à la condition d'avoir un pass sanitaire. Pour ce qui est de la pratique sportive, cette fois, les salles pourront rouvrir et les sports de contact en plein air seront autorisés, ainsi que les sports sans contact en intérieur. Enfin, pour cette troisième étape, les touristes étrangers pourront venir en France s'ils ont un pass sanitaire. pour terminer, quatrième et dernière étape, le 30 juin. Fin du couvre-feu et des limites de jauge, mais maintien des gestes barrières. Il sera possible de se rendre à tout événement de plus de 1000 personnes à la condition d'avoir un pass sanitaire. En revanche, une ombre au tableau, les boîtes de nuit ne pourront toujours pas rouvrir et impossible à ce stade d'avoir la moindre échéance.
Louis Dragnel du service politique d'Europe 1 a une précision pour le pass sanitaire. Il s'agira de produire un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un certificat de vaccination. Emmanuel Macron l'envisage pour l'entrée au stade, dans les festivals, les foires ou les expositions qui brassent du monde. Le chef de l'État exclut en revanche de le rendre obligatoire pour aller au restaurant, au théâtre ou encore au cinéma.
Et on précise que vous retrouvez tout le détail de ce déconfinement sur notre site internet europe1.fr. Vous avez absolument tout, les dates, les lieux autorisés à rouvrir ainsi que le protocole prévu. Alors on pense notamment aux cafés et aux restaurants, c'était une forte attente, et bien ils sont désormais fixés.
Et c'est ce qu'ils réclamaient d'ailleurs, un calendrier de réouverture. Celle-ci se fera en trois étapes, d'abord les terrasses à partir du 19 mai, puis une ouverture progressive et totale intérieure-extérieure le 30 juin. On va prendre la direction de Lyon où l'UMI, le principal syndicat de la profession, tenait une conférence de presse. Jean-Luc Boujon, l'heure est au soulagement.
Oui, effectivement, car c'est enfin la bonne nouvelle tant attendue pour les restaurateurs et les patrons de bars. Un calendrier, vous l'avez dit, et donc cette réouverture en deux temps, terrasse puis intérieur. Dieu que ça fait du bien d'entendre ça, estime Geoffrey Clavel, gérant du bar Le Commerce dans le 7e arrondissement de Lyon.
On a enfin une date, donc ça c'est super cool. Ça va nous permettre de refaire notre métier et de ne pas le laisser aux épiciers ou aux supermarchés qui jusqu'alors vendaient de l'alcool, que les gens consommaient en douce sur les berges, notamment à Lyon. Donc du coup c'est super, on va pouvoir retrouver le lien social avec nos clients et eux vont pouvoir en profiter. Donc c'est une excellente nouvelle parce que du coup les gens vont enfin pouvoir réellement avoir un petit peu de vie en dehors du travail. Et nous on peut rouvrir nos affaires, on peut se projeter. Pour nous l'économie redémarrera vraiment au mois de juin.
Alors ce qui plaît aussi aux patrons de bars et de restos, c'est que l'ouverture des terrasses puis des intérieurs s'accompagne d'un report du couvre-feu à 21h le 19 mai puis à 23h le 9 juin. Une décision de bon sens et salutaire selon Thibaut Salva, propriétaire de trois restaurants à Lyon, dont le Hard Rock Café en plein centre.
On est satisfait d'enfin apercevoir le bout du tunnel. Après, c'est vrai qu'il y aura encore des contraintes dues à la crise sanitaire et à l'épidémie. Mais on est quand même tous satisfaits de pouvoir reprendre le travail, de faire revenir nos employés, rouvrir nos portes, rallumer les lumières, mettre la musique et d'accueillir nos clients.
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la ville de Lyon a annoncé aujourd'hui qu'elle allait y aller de son coup de pouce en accordant à tous les bars et restos qui en feraient la demande l'autorisation d'étendre leurs terrasses gratuitement sur le trottoir ou sur les places de stationnement.
Eh bien merci Jean-Luc Boujon pour ces bonnes nouvelles. Jean-Luc, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Soulagement aussi dans le secteur de la culture et notamment pour les cinémas.
Et oui, ils pourront rouvrir le 19 mai. La date est symbolique. On ne sait pas si elle a été choisie au hasard, mais cela fera 200 jours de fermeture pour les salles. Mathieu Charrier, il y aura quand même attention, un protocole à respecter.
Et oui, avec d'abord un siège sur trois maximum d'occupés et ce couvre-feu donc à 21h, ce qui permet quand même de sauver la séance de 19h, la séance de sortie du travail en quelque sorte. Dans un deuxième temps, à partir du 9 juin, deux sièges sur trois pourront être occupés et le couvre-feu étant repoussé à 23h, les cinémas fonctionneront quasi normalement. Seule la dernière séance de 22h ne sera toujours pas rétablie. Un sentiment, comme chez les restaurateurs, un sentiment domine chez les professionnels du cinéma, c'est le même. Le soulagement. Écoutez justement Richard Patry qui dirige la Fédération nationale des cinémas français.
Enfin, c'est un vrai ouf de soulagement, c'est un vrai bonheur. Mais sincèrement, pour l'ensemble des 15 000 collaborateurs des salles de cinéma qui se sentent totalement inutiles depuis 6 mois, qui n'ont rien fait depuis 6 mois, les restaurants, eux, ont eu au moins la vente à emporter. Nous, on n'avait rien. Donc oui, enfin, ouf pour les films qui vont pouvoir retrouver leur écran naturel de la salle de cinéma. Et puis surtout, enfin pour les spectateurs qui vont pouvoir quitter leurs petits écrans et leur télévision pour pouvoir venir découvrir un grand film dans une grande salle de cinéma. C'est capital.
Voilà, justement, c'est la question maintenant. Est-ce que les spectateurs qui ont pris l'habitude de regarder des films chez eux, sur les plateformes notamment, vont retrouver le chemin des salles ? Les professionnels sont confiants parce que lors du premier déconfinement, ils étaient progressivement revenus.
Alors Mathieu, maintenant qu'on sait que ça va rouvrir, enfin on a envie de savoir ce qu'on va pouvoir aller voir.
Alors d'abord, il va y avoir tous les films dont la carrière avait été stoppée par le confinement, qui n'avaient passé que quelques jours en salle et qui vont ressortir. Adieu les cons par exemple, d'Albert Dupontel, multi-césarisé depuis, ADN, de Mai Wen, Garçon chiffon de Nicolas Maury, ou Drunk, récent Oscar du meilleur film étranger. Et puis forcément, il y a aussi des nouveaux longs-métrages qui vont sortir. Là aussi, la liste s'allonge de minute en minute. Je vous en cite quelques-uns. Envole-moi, porté notamment par Gérard Lanvin et Victor Belmondo. Mandibule, de Quentin Dupieux, avec le duo du Palmachot. Cruella aussi, signé Disney avec Emma Stone. Ou Promising Young Woman, très attendu. Voilà, ces deux films sortiront le 26 mai. va y avoir embouteillage de films, c'est certain. C'est embêtant pour les professionnels du cinéma, mais ça veut dire que le public, lui, aura l'embarras du choix.
On a hâte en tout cas. Merci beaucoup Mathieu Charrier, chef du service culture d'Europe 1. Ce déconfinement et le plan annoncé par Emmanuel Macron, on va en parler juste après ce journal avec mon invité Jean Rottner, le président LR de la région Grand Est. Europe 1, 18h08, on vous en parlait hier soir. Le gouvernement va ouvrir la vaccination pour les adultes qui souffrent d'obésité. Ce sera à partir du 1er mai, à partir de samedi donc, et ce, sans limite d'âge.
Oui, la question de l'élargissement de la vaccination n'est toujours pas tranchée pour le reste de la population. Cela n'empêche pas Pfizer d'anticiper la vaccination des plus jeunes. Le laboratoire va demander à l'Agence européenne du médicament l'autorisation d'utilisation pour les 12-15 ans, c'est-à-dire pour les adolescents, Victor Delande.
Oui, en déposant son autorisation sur le bureau de l'Agence européenne du médicament dans les prochains jours, ça rend possible une homologation dès le mois de juin prochain. Pour le moment, il faut rappeler que ce vaccin est autorisé seulement pour les personnes âgées de 16 ans minimum. Et d'après les premiers résultats des essais cliniques sur les adolescents, l'efficacité du vaccin Pfizer sur cette population est excellente, proche de 100%. Dans la foulée, le laboratoire Pfizer-BioNTech pourrait déposer une autre autorisation, cette fois pour les 5-12 ans. Le but est clair, obtenir une immunité plus importante au sein de la population pour bloquer la transmission du virus et donc avoir le moins possible de nouveaux cas dans les prochains mois. Avec la circulation des variants, il faudrait qu'environ 90% des personnes soient vaccinées, de la population majeure. Pour les scientifiques, il n'y a aucun doute, ce seuil est trop élevé. En clair, on n'y arrivera pas. Et donc, pour espérer une immunité collective, les scientifiques estiment que la vaccination des ados, puis des enfants, est le bon moyen pour y arriver.
Merci beaucoup, Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Europe 1, 18h11, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1. Et ils ont signé la tribune publiée par Valeurs Actuelles contre le délitement de la France. 18 militaires vont être sanctionnés.
Oui, il s'agit de soldats et d'officiers d'actifs, c'est-à-dire encore en activité. Le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, rappelait ce matin dans une interview le devoir de neutralité et d'exemplarité des militaires lorsque l'on porte l'uniforme. Et c'est justement pour avoir manqué de cela qu'ils seront punis, comme l'explique Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées.
Ce qui sera sanctionné, puisque les procédures disciplinaires débutent et les sanctions n'ont pas encore été rendues, c'est le fait de se mettre à l'écart de ce qu'est le statut général d'un militaire, qui est prévu par la loi. Et le statut général d'un militaire, que dit-il ? Il dit qu'un militaire doit, en tout temps, en tout lieu, garder sa neutralité, sa réserve et sa loyauté vis-à-vis du pouvoir exécutif. Et à l'évidence, cette tribune, qui est une tribune à connotation politique, s'écarte de ces vertus cardinales des militaires que sont la neutralité et la loyauté. Et donc c'est cela qui sera sanctionné.
Le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, il répondait à Nicolas Feldman. Le foot, et il ne vous a pas échappé que Paris a perdu hier soir contre Manchester City. Mais les Parisiens continuent pourtant d'y croire, seuls contre tous.
Ouais, pratiquement. En tout cas, c'est vrai que les statistiques ne plaident pas en leur faveur. Cette défaite de 2-1 à domicile face à Manchester City peut paraître rédhibitoire. Mais c'est le principe des matchs aller-retour. Il y aura une deuxième manche, Cyril Lemoinerie. Et si les joueurs parisiens sont loin de... ils sont loin de partir battus d'avance.
Absolument, puisqu'hier soir, dès le coup de sifflet final, le capitaine du PSG s'est aussitôt projeté sur ce déplacement crucial à Manchester. Si on n'y croit pas, il ne faut même pas y aller, a lancé Marquinhos à l'un des diffuseurs. Alors le PSG devra réaliser l'exploit à l'extérieur. Cela tombe bien, c'est une des spécialités maison cette saison. Victoire fleuve à Barcelone, succès marquant sur le terrain du tenant du titre à Munich, mais aussi à Manchester United. En fait, tout dépendra de la forme physique des Parisiens, explique l'ancien joueur du PSG, Laurent Fournier.
En difficulté, je ne sais pas, puisque les meilleurs résultats, ils les ont fait à l'extérieur. Après, où c'est inquiétant, c'est la baisse physique du Paris Saint-Germain. Si contre City, vous n'êtes pas à 200% pour être agressif, techniquement, c'est beaucoup plus fort.
En tout cas, mentalement, Paris est à 200%. Neymar, qui est passé à côté de son match, donne rendez-vous aux supporters mardi prochain sur sa page Instagram. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Je crois en mon équipe. Et il termine ce message par cette statistique. 1% de chance, 99% de fois. En réalité, c'est 7% de chance. Il y a 2 ans, en Ligue des Champions, l'Ajax Amsterdam, qui avait perdu 2-1 à l'aller, avait renversé la situation et éliminé le Real Madrid en s'imposant à l'extérieur 4-1 au match retour. Pour Paris, c'est la preuve que c'est encore possible.
Mais bien sûr que c'est encore possible. Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Dans le journal de Christophe Lamarre, que l'on retrouve à 18h30 et à 19h, bien sûr, pour un nouveau journal. Anissa Haddadi, demain, vous nous confirmez que le ciel sera gris et qu'il y aura pas mal d'humidité.
Oui, le temps est instable encore demain, Isabelle, avec des Pyrénées jusqu'au Grand Est, des averses fréquente. C'est le long de la façade atlantique en Bretagne, en Normandie, sur les Hauts-de-France et sur la région parisienne. C'est là que le temps restera sec et lumineux demain matin. Au fil des heures, le temps reste agité sur la moitié sud. Les averses vont gagner du terrain, elles vont remonter vers le nord puisque de la Bretagne à l'Alsace, en passant par les Pays de la Loire, l'Île-de-France et la Bourgogne, nous aurons une après-midi assez pluvieuse demain avec des averses comme ça intermittentes, moins fréquentes que dans le sud, mais bon, de l'humidité quand même dans le nord. Les températures, elles continuent de baisser, elles sont bien fraîches pour la saison avec moins 2 à Charleville-Mézières demain matin, moins 1 à Beauvais, 3 à Brest et Lille, 8 degrés pour Bordeaux, 5 à Paris et 12 à Nice. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons seulement 10 degrés à Dunkerque. C'est encore en dessous des normales. Hein. 14 à Pau et à Caen, 16 à Besançon et Bordeaux, 17 pour Paris, 20 à Carcassonne et 21 pour Ajaccio. Ce qui nous préoccupe actuellement, c'est la situation dans le sud-est où nous avons un épisode de pluie forte, soutenue, orageuse qui arrive de Méditerranée. Ça devrait durer 3 jours. Et la journée la plus critique sera celle de samedi où on attend un mois de pluie sur la seule journée de samedi.
C'est beaucoup, effectivement. Vous suivrez ça de très près. Merci beaucoup, Anissa. On vous retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Milleux.
18h18, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Et alors que l'on connaît le détail du plan de déconfinement en 4 étapes présenté par Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale, je reçois ce soir le président de la région Grand Est. Bonsoir, Jean Rottner.
Bonsoir Isabelle Miem.
Merci beaucoup d'être en direct ce soir avec nous. Je rappelle que vous êtes également médecin urgentiste. Votre regard est donc doublement intéressant. Alors, quelle est votre première réaction sur ce plan en 4 étapes? La première, c'est lundi prochain, le 3 mai. La dernière, le 30 juin. On va les détailler ensemble. Mais d'abord, votre vision globale sur ce plan. Est-ce que ce calendrier vous semble cohérent?
Mais écoutez, la première réaction, c'est que les choses semblent aller mieux. Ou on pourrait dire, elles vont moins mal. Ce qui amène le gouvernement et le chef de l'État, effectivement, à desserrer progressivement l'étau qui s'exerçait par rapport à cette pandémie. Il le fait beaucoup plus progressivement que cela n'avait été le cas l'an dernier. Je crois que c'est une décision en tout cas sage, c'est une décision progressive, c'est une décision, attention, qui fixe des dates, et je crois qu'un certain nombre de professionnels seront extrêmement attentifs au respect de ces dates, et le chef de l'État le précise aussi, il y a des possibles retours en arrière si vraiment la situation ne va pas. Et je crois qu'il faut être raisonnable et toujours extrêmement prudent.
Alors il y a une échéance que les Français attendaient peut-être un peu plus que les autres, c'est la réouverture des commerces, des lieux de culture, des théâtres, des cinémas, avec des jauges limitées bien sûr, et des terrasses. Donc ça, ce sera le 19 mai. Le 19 mai également, le couvre-feu sera repoussé à 21h. Alors les commerçants réclamaient de pouvoir ouvrir avant le pont de l'Ascension. Vous comprenez que le président n'ait pas voulu prendre ce risque ?
Je crois qu'en analysant les courbes, effectivement, je peux le comprendre. Je comprends aussi cette volonté. J'ai encore reçu les représentants des hôteliers restaurateurs cette semaine avec ma préfète de région pour vraiment les accompagner dans cette reprise que l'on sentait venir. Il y a une envie de travailler, il y a un accompagnement absolument nécessaire. Et franchement, les Français aujourd'hui ont besoin de sortir de cette morosité ambiante qui, après 14 ou 15 mois, leur pèse réellement. Ils ont besoin de sortir de cette ambiance rythmée par des guérillas urbaines ou des attentats et de revivre, simplement de sourire. Et je crois que cette volonté, elle se fera, mais elle se fera progressivement. Nous devons tous collectivement rester responsables. Ça, c'est vraiment le médecin qui vous parle. La levée des contraintes, c'est pas la disparition de l'épidémie.
Alors, il y a quand même beaucoup d'épidémiologistes qui nous disent c'est trop tôt pour ouvrir les vannes, il faut encore attendre au risque que l'épidémie reparte de plus belle. On rappelle que vous êtes médecin urgentiste. Vous nous disiez tout à l'heure que les choses vont moins mal. C'est le cas notamment dans votre région, Jean Rottner ?
Oui, ça va moins mal, effectivement, chez moi, mais je mesure toute l'hétérogénéité territoriale de ce moins mal dans les Ardennes aujourd'hui, qui est le département peut-être le plus touché, où l'épidémie semble encore très présente, et dans la Moselle, que vous connaissez, que nous connaissons tous, parce qu'elle a été très très durement touchée avec des mesures exceptionnelles d'ailleurs de la part, par exemple, de nos amis allemands à l'encontre des Mosellans, des contrôles aux frontières. Enfin, ils ont vécu maintenant plusieurs semaines avec cette difficulté-là. On sent que les territoires ne sont pas égaux, donc il faut être extrêmement prudent. Ce d'autant plus que les déplacements entre régions vont être à nouveau autorisés. Donc restons prudents. La prudence doit être de mise. On doit continuer à vivre avec cette épidémie, peut-être naturellement avec une levée des contraintes contraintes, mais en ayant à l'esprit qu'il n'y a que la vaccination et les mesures aujourd'hui de prévention qui peuvent nous permettre de dominer tout cela.
On avait un temps évoqué l'idée de déconfiner par territoire. Cette idée, elle n'est pas retenue par le président. Vous le regrettez quand même ?
Elle ne m'aurait pas choqué, parce que c'est quelque chose que je peux comprendre et je viens d'un territoire largement touché, mais elle aurait été aussi extrêmement complexe et difficile à mettre en place compte tenu des déplacements entre territoires, des inégalités, des aides différentes peut-être au sein d'une même filière, d'une même profession. C'est l'occasion pour moi de dire aussi qu'il faut être attentif. Il faut être attentif aux hôteliers-restaurateurs. La reprise va être extrêmement progressive et les aides aujourd'hui qui leur permettent de survivre doivent être aussi levées progressivement avec la reprise de leur activité. Il faut être extrêmement attentif à cette filière qui a beaucoup souffert quand même depuis plus d'un an.
Pour en revenir à l'idée de territorialisation, le président dit quand même « nous pourrons continuer à actionner des freins d'urgence sanitaire dans les territoires où le virus circulerait trop ». Ça veut dire qu'il se laisse la possibilité de faire du cas par cas.
Mais s'il ne le disait pas, je crois que ce serait grave. Et c'est de sa responsabilité, effectivement, de prendre les bonnes dispositions au bon endroit et au bon moment si l'épidémie reprend quelque part. Il faut absolument éviter de repartir vers un quatrième rebond. C'est juste fondamental.
Alors Jean Rottner, vous avez regretté à plusieurs reprises depuis le début de la crise le manque de confiance entre le sommet de l'État et les élus locaux. Emmanuel Macron a choisi la presse régionale donc pour dévoiler son plan. Il a consulté les maires en début de semaine. Il est en train de renouer, de renforcer son lien avec les territoires.
Oui, c'est pas en quelques semaines qu'on renoue la confiance qui s'est un peu distendue entre un État qui hyper-centralise aujourd'hui toutes ses décisions et les élus locaux. Il y a effectivement des signes qui sont donnés, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
On a compris, Jean Rottner, que le pass sanitaire aurait un rôle majeur dans les prochaines semaines. Il entrera en vigueur le 9 juin. Pensez-vous que les Français sont prêts à y adhérer ? Est-ce qu'on devra se munir d'un QR code pour assister à un concert au Zénith de Strasbourg ou pour aller au stade Saint-Symphorien de Reims, de Metz, pardon ?
Ah oui, il ne faut pas confondre.
Non, non, c'est, surtout pas.
Ça,
voilà.
c'est une erreur. mais vous savez, les pays qui nous entourent vont petit à petit aller vers ce système-là. Donc il ne faut pas le refuser de principe. Il faut peut-être l'adapter, bien le faire comprendre, faire preuve de pédagogie. Et encore une fois, quand on est vacciné, eh bien, il n'y a pas de honte à le dire, à le montrer et au contraire à en faire la promotion. Quand on est négatif à un test PCR, ça sécurise tout le monde aussi. Donc là aussi, c'est la responsabilité à la fois individuelle et collective, c'est une responsabilité citoyenne. Moi, je suis pour ce genre d'éléments qui permettent de rassurer.
En tout cas, ce ne sera jamais, dit le président, un droit d'accès qui différenciera les Français.
C'est fondamental.
On va revenir sur la campagne de vaccination, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure. En janvier dernier, vous dénonciez un scandale d'État concernant cette campagne vaccinale. Vous restez aujourd'hui sceptique, même si vous reconnaissez que la situation s'améliore.
Non, la situation s'est améliorée. On était à un temps précis avec des promesses qui n'étaient pas tenues, avec un retard qui était réel. Nous étions 52e après le Costa Rica. Des efforts ont été faits. Les élus locaux ont quand même beaucoup travaillé et continuent à travailler dans l'organisation des centres de vaccination. Il y a une solidarité nationale. Et vous savez, parfois, élever la parole, la voix, c'est nécessaire pour dénoncer, pour que les choses avancent. Et c'est le président de la République lui-même, avant moi, qui publiquement avait dénoncé une certaine lenteur. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une prise en considération collective de la nécessité de se vacciner. Il faut que les Français, aujourd'hui, occupent tous les créneaux de vaccination disponibles. Là aussi, c'est absolument quelque chose de fondamental. Il faut que nous accélérions la vaccination. Certains militent effectivement pour un élargissement des créneaux médicaux ou des indications médicales de vaccination. Celles-ci vont s'ouvrir aussi aux personnes plus jeunes avec des facteurs de comorbidité. Mais je crois que c'est une bonne chose.
Et vous pensez que ça serait une bonne chose de l'ouvrir à tous, cette vaccination ?
Il faut le faire de manière cohérente. L'ouvrir pour tous, ça veut dire être aussi organisé pour recevoir tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, on ne l'est pas encore.
Je n'ai jamais fait de pari sur la santé et la sécurité de nos concitoyens, dit Emmanuel Macron. J'assume d'avoir fait des choix, mais ce ne sont pas des paris. Cela sous-entendrait que ce serait aventureux. Non, nous avons été éclairés par la science. Nous avons fait le choix de mettre l'humain avant tout. Or, dans l'humain, il n'y a pas que la gestion sanitaire, mais aussi tout ce qui fait la vie des femmes et des hommes. La vie de la nation ne se réduit pas à l'évolution des courbes. C'est un exercice quand même très compliqué, Jean Rottner, de concilier les impératifs sanitaires et en même temps de donner un horizon à des Français qui n'en peuvent plus.
Et en même temps de rester humble. Parce que ce virus nous rappelle effectivement l'humilité, la modestie. C'est lui qui dicte le temps, c'est lui qui dicte ses effets. Et je crois que la phrase du président de la République, c'est aussi de dire ça quelque part. C'est le calendrier est fixé par le virus lui-même et par nos attitudes collectives. Et moi, ce qui m'a appris effectivement depuis 14 mois, c'est à être modeste, humble, et peut-être transformé par ce que nous avons vécu ici dans la région, des pertes de personnes chères, de proches, et ça continue tous les jours. Il y a encore des personnes atteintes que nous connaissons qui sont hospitalisées, mais la science a progressé, elle a appris à connaître, elle a appris à un petit peu mieux dompter ce virus. L'humilité médicale, c'est aussi ça, c'est de savoir réfléchir, trouver là aussi la voie médicale pour essayer d'être le plus efficace possible. Et c'est peut-être aussi ce qu'a découvert le président de la République.
Eh bien, merci beaucoup Jean Rottner, président de la région Grand Est, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 pour réagir à ce plan de déconfinement en 4 étapes, plan dont vous pourrez retrouver tous les détails sur europe1.fr.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mille.
18h30, le rappel des titres avec vous Christophe Lamarre.
Emmanuel Macron a fixé le calendrier du déconfinement, 4 étapes entre le 3 mai et le 30 juin, si tout va bien. Fin de la règle de 10 km autour du domicile dès lundi prochain. Fin aussi des attestations de déplacement. Le couvre-feu débutera à 21h à partir du 19 mai. Ce sera 23h le 9 juin et ce sera terminé le 30 juin. Le 19 mai, ce sera aussi l'heure de la réouverture pour les terrasses, des cafés, des restaurants. Réouverture aussi pour les commerces, les musées, les cinémas et les théâtres. Le gouvernement va ouvrir la vaccination pour les adultes souffrant d'obésité également à partir du samedi 1er mai sans aucune limite d'âge. Enfin, troisième jour de blocage à la fonderie de Bretagne dans le Morbihan. Une centaine de salariés occupent toujours l'usine promise à la vente par Renault. Ils réclament son maintien dans le groupe.
Merci Christophe Lamarre. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Anissa Haddadi, de l'instabilité pour demain, en particulier dans le sud.
Oui, dans le sud-est même Isabelle, hein, où nous avons de nouvelles pluies orageuses qui sont attendues demain toute la journée. Et ces pluies, elles viennent s'ajouter au cumul de ces derniers jours, sachant que, je vous l'ai dit tout à l'heure pendant le journal, la journée la plus critique dans le sud-est est attendue pour ce samedi, où un mois de précipitation est attendu pour la seule journée de samedi. Alors partout ailleurs, demain, nous aurons une alternance d'éclaircies et d'averses. Donc comme dirait notre Laurent Cabrol national, demain c'est le PPP, le parapluie par précaution pour tout le monde sans exception. Côté température, ça baisse encore demain avec des valeurs bien en dessous des normales de saison. On aura moins 2 à 11 degrés le matin du nord au sud. Dans l'après-midi, c'est frais, 10 à Dunkerque, 13 à Saint-Étienne, 15 à La Rochelle et Clermont-Ferrand, 17 pour Paris, 19 à Marseille et 21 la maximale pour Ajaccio.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point complet.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mille.
18h32, on ouvre le débat de nos grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta, Claire Chartier, rédactrice en chef débat et idées au magazine L'Express, et Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste au Figaro. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Merci de m'accompagner ce soir. Alors on a beaucoup de choses à dire ce soir. Emmanuel Macron a choisi, vous le savez, cette fois plutôt que la traditionnelle allocution de s'exprimer dans la presse quotidienne régionale pour s'adresser aux Français et pour leur annoncer les prochaines étapes du déconfinement. Et ça y est, on le connaît, ce plan européen, vous le révélez en début d'après-midi. C'est un déconfinement en 4 étapes. Alors on va un petit peu détailler tout ça ensemble. Mais d'abord, est-ce que ça vous paraît cohérent d'avoir divisé ce déconfinement en 4 étapes très progressives, Guillaume Tabar?
On savait que ça ne pouvait être que progressif, donc ça c'était inévitable. La bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que le président s'est tenu à ce calendrier, un calendrier qui est finalement assez resserré. Bien sûr, on aurait pu toujours rêver que les choses aillent plus vite, mais visiblement, la situation sanitaire n'est quand même pas non plus... Elle s'améliore incontestablement, mais peut-être pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Donc, il fallait que ça reste progressif. Bon, on est sur un calendrier qui va jusqu'à fin juin. Au moins, on a des perspectives.
19 juin et 30 juin.
Donc, au moins, c'est balisé, c'est clair, c'est séquencé. On sait à quoi s'en tenir.
Oui, vous êtes d'accord, Claire Chartier, ça permet de distiller un peu d'espoir aussi bien auprès des Français que des professionnels.
Oui, tout en respectant en fait ce qui relève de la plus élémentaire des prudences, c'est effectivement de se dire on a des dates et en même temps, il le souligne bien, ces dates elles peuvent bouger en fonction de la situation sanitaire. Et là aussi, ça paraît vraiment très prudent. Donc, en fonction de ce fameux taux d'incidence, le nombre de personnes infectées pour 100 000 habitants. Et avec aussi ce message qui, je pense, est important en arrière-plan, c'est que ce changement éventuel de date, c'est aussi un petit peu prévenir ce qui pourrait être un faux sentiment de libération chez les Français. parce que on a tous envie de croire que quand ces dates arriveront, eh bien le Covid sera derrière nous. Parce qu'en plus, on a un an dans les pattes, en quelque sorte. Hein. C'est pas comme l'année dernière où déjà on s'était relâché. Là, on a un an d'une année vraiment sinistre. Et en plus, la peur du Covid a reflué. Parce que, on le voit d'ailleurs dans les sondages, et parce qu'on connaît de plus en plus de gens qui ont été malades, pour qui ça a été pénible, mais pas non plus catastrophique. Donc du coup, il y a quand même ce risque qu'on se relâche. Donc il y a ce petit message en arrière-ton, je trouve, qui dit « ça peut bouger quand même, donc je vous donne un calendrier ». Mais ça peut bouger, donc restons quand même assez prudents.
Oui, et d'ailleurs Emmanuel Macron, dans cette interview à la presse régionale, Michel Cotta, il est lui-même très prudent. Hein. Il dit « ce que je peux vous dire les yeux dans les yeux, est-ce que je peux vous dire les yeux dans les yeux qu'on ne sera plus jamais débordé par ce virus ? C'est impossible. Il semble que les vaccins dont nous disposons soient efficaces face aux variants, mais vous voyez bien que nous en découvrons de nouvelles formes chaque semaine. Il faut rester vigilant. » Grande prudence quand même du président de la République. Hein.
Grande prudence. Alors moi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on avait tous parlé dans la presse d'une éventualité de déconfinement par région, suivant justement le taux de reproduction du virus. Or, ce n'est pas la solution choisie. Et moi, je crois que c'est une bonne chose, parce que les gens vont commencer à se déplacer. Et tant qu'à faire, il vaut mieux que les règles soient partout pareilles. Mais on l'a dit, c'est un confinement balisé. À condition que les balises tiennent. Quoi.
Oui, et puis le président dit qu'il n'est pas exclu qu'au cas par cas, on puisse remettre en place des mesures dans certains territoires si vraiment la situation ne s'améliore pas.
C'est ce qu'il appelle des freins d'urgence dans l'interview. C'est là qu'il renverse la logique à laquelle on s'attendait, comme le rappelle Michel, à savoir cette territorialisation. Il fait l'inverse. Il dit c'est général, mais possibilité d'un coup de frein là où c'est nécessaire. Je pense que c'est encore plus ajusté à la situation telle qu'elle est.
Mais parce qu'il a aussi appris des exemples étrangers aussi, de ce qui nous est arrivé ici, c'est qu'on voit bien, c'est que c'est vraiment une souplesse, une agilité, c'est un mot qu'il aime bien, mais là, en l'espèce, ça doit s'imposer, face à cette crise sanitaire. On ne peut pas, le volontarisme avec des cases et des stratégies très, très établies ne fonctionne pas.
Oui. Alors c'est vrai qu'il y a les commerçants quand même qui sont un peu déçus parce qu'ils espéraient une réouverture le 12 mai, c'est-à-dire avant le week-end de l'Ascension. Bon, les restaurateurs également, c'est quand même un coup dur pour eux, ça, Michel Cotta. Hein.
Ouais, écoutez, on s'est aussi posé la question avant, après le week-end de l'Ascension. Je ne suis pas sûr que le week-end d'Ascension soit particulièrement couru. Tout le monde, de toute façon, je pense que dès le premier jour...
Il est très couru, hein, les réservations SNCF sont bloquées. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont envie de partir.
De toute façon, tout le monde va se ruer le 19 mai. Et si ce n'était pas le 17, ça aurait été peut-être mieux pour eux. Mais le 19, ça aurait été pas mal non plus.
Et alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains, ça veut dire beaucoup. C'est la mort annoncée des discothèques. Hein. Il n'y a aucune date d'ouverture annoncée, même pas le 30 juin.
Il est même dit que le 30 juin, elles ne rouvriront pas.
Absolument. Ouais. En janvier, il y en avait déjà 430 qui avaient mis la clé sous la porte sur 3000 discothèques en France. Bien, sur la forme, les grandes voix. Donc, pour la première fois, Emmanuel Macron n'a pas choisi de faire ses annonces derrière son bureau à l'Élysée, mais par le biais d'une interview dans la PQR, la presse quotidienne régionale. C'est un bon choix, Claire Chartier ?
Oh bah ça, comment dire, ça atteste d'une volonté de parler au territoire, pour reprendre ce terme aujourd'hui très en vogue, et donc de un petit peu casser cette image, je pense, d'un président qui parle très en hauteur et très au-dessus de son piédestal national. Donc je pense que ça a effectivement un message politique. En plus, en ce moment, qui parle des territoires, c'est Xavier Bertrand, le candidat le mieux placé à droite. Donc voilà, je pense que c'est aussi une façon de dire il s'adresse à tout le monde et là, il repart sur un petit peu le terrain.
Et c'est vrai que l'opposition lui reproche parfois d'oublier les territoires, Guillaume Tabar. Hein.
Oui, mais ce qui est curieux, c'est que Emmanuel Macron, finalement, torpille lui-même sa propre idée. Soit on fait une annonce à la télévision, quel cas les 15, 20, 30 millions de téléspectateurs attendent, regardent la télévision et puis apprennent les décisions. Là, il dit « je le fais par la presse régionale ». Très bien, très bonne idée. L'apprendre par la presse régionale, ça veut dire que demain matin, en achetant son quotidien régional, on trouve les informations. Or, surtout que les journalistes qui ont participé, les 10 journalistes qui ont participé à l'entretien, ont tous eu consigne très stricte de la part de l'Élysée de ne rien communiquer à l'extérieur avant 21h, je crois, ce soir. Et tout est sorti, et je crois quand même que c'est plutôt côté Élysée que les fuites sont venues. Ce qui fait que, d'ailleurs, vous-même, dès que vous avez eu des informations, vous les avez mises en ligne. Et puis, une fois que c'était parti, tout le monde était bien obligé de suivre. Donc,
Il fait à la fois une faveur, en tout cas un geste de reconnaissance envers la PQR, et en même temps, il leur sabote le petit cadeau qu'il leur faisait. Je crois qu'ils ne sont pas ravis, et on les comprend.
Bon, on n'a pas encore parlé de la vaccination. Emmanuel Macron, il dit que pour l'instant, il n'envisage pas de l'ouvrir à tous, Michel Cottin.
Oui, beaucoup de choses dans ce qu'on dit. Beaucoup de choses dépendent de la vaccination, évidemment, et du rythme de la vaccination. Alors, je reconnais qu'il doit être un peu difficile d'ouvrir à tout le monde sans établir aucune hiérarchie. Mais d'un autre côté, il faudra bien faire quelque chose avec ces doses de vaccins qui ne sont pas utilisées. Donc, qu'on le dise cette semaine, qu'on le dise peut-être un peu plus dans quelques jours ou plus tard, il y aura forcément on autorisera le passage à au moins de 50 ans bien avant ce qui était prévu. 200. Alors, on ne dit qu'aucune dose n'est perdue. Ça veut bien dire qu'elle va à quelqu'un. Et si elle va à quelqu'un, elle va à quelqu'un dans les derniers moments, dans les vaccinodromes, etc. Et donc, souvent, on en voit d'ailleurs l'image à la télévision. Il y a surtout des plus jeunes qui, justement, attendent depuis longtemps. Donc, je crois que c'est un faux semblant de dire on s'en tient à la hiérarchie qu'on a définie et on fera ça plus tard.
En tout cas, dans le Figaro, le patron de Doctolib annonce le lancement d'un nouveau site, Défi Vaccination, hein, oui. pour arrêter la désinformation sur la prise de rendez-vous. C'est vrai que les Français, ils ont un peu de mal à comprendre que dans certaines régions, il n'y ait pas de créneau de vaccination. Et dans d'autres, notamment, vous le disiez, Michel, dans les vaccinodromes, ça ne trouve pas preneur, comme au Stade de France, par exemple, hein, Guillaume Tabar.
Oui, et alors, c'est là où on voit à nouveau que l'État n'est peut-être pas le mieux placé pour gérer cette logistique, et pourtant, ils veulent la maîtriser totalement. Moi, j'avoue, ne pas comprendre cette restriction qui est maintenue, c'est un peu, vous savez, comme un train. On attend un retardataire. Bon, très bien, c'est sympathique de la part du chauffeur d'attendre un retardataire, mais au bout d'un moment, si le retardataire n'arrive pas, ne pas partir, ça pénalise quand même tous ceux qui sont dans le train. Et là, il y a tous ceux qui pouvaient se faire vacciner et qui le voulaient, qui l'ont fait. Alors, qu'on dise, il y a encore des gens qui font... Bon,
mais oui, très bien, mais... Il y en a encore, quand même.
Pas sûr, mais il y aura toujours, on aura beau attendre tout le monde, il n'y aura jamais 100% des gens dans la cible qui seront vaccinés. Donc, si on attend tout le monde, on ne partira jamais, parce que ce qui compte, c'est quand même que le maximum de gens soient vaccinés. Donc, qu'on refasse le dernier appel avant le départ, très bien, mais arrive un moment, ceux qui ne sont pas vaccinés, ils ont été prévenus. Qu'on permette à ceux qui le veulent de le faire, quand même.
Vous êtes d'accord avec ça, Claire Chartier ?
L'idée est de convaincre, en fait, les récalcitrants qui ne veulent pas se faire vacciner avec AstraZeneca, mais c'est vrai qu'on peut attendre longtemps avant de les convaincre. Ouais. Je trouve qu'il y a un point intéressant dans l'entretien, c'est sur le pass sanitaire qui est refusé. Donc le pass, c'est ce qui est censé vous permettre d'accéder dans le pays aux restaurants, musées, etc. Donc là, il n'en sera pas question, sauf pour des rassemblements de plus de 1000 personnes, si j'ai bien compris.
Donc le pass sanitaire, c'est test PCR négatif.
Voilà, soit vous êtes vacciné, soit là. Ouais. Alors, toute la polémique était autour du fait que tout le monde ne pouvant pas être vacciné, ça n'avait pas de sens. Bon, là, ça inclut aussi les tests. Et je trouve que c'est un peu risqué de se passer de cet outil. Parce que
on va pas vraiment s'en passer, on devra le présenter dans les grandes manifestations.
Non, mais de s'en passer dans les restaurants, parce qu'ils vont ouvrir le 9 juin les restaurants en intérieur, et pas simplement terrasse, en intérieur. Le 9 juin, je ne sais pas où on en sera, question vaccination. Il y a d'autres pays qui l'ont mis en place. C'est finalement, il y a des petits, c'est un petit peu gênant, mais enfin, au Danemark, par exemple, ça se passe pas mal du tout. Et c'est vrai que ça peut permettre quand même de prémunir de nous protéger contre une circulation qui sera quand même toujours vraisemblablement là le 9 juin, puisqu'on ne sera pas tous vaccinés loin de là. Donc, je trouve que là, c'est un petit risque qu'il prend. À mon sens, c'est aussi, il prend parce qu'il craint certainement des polémiques, aussi, je pense. Parce qu'en fait, les plus réticents à cette idée, ce sont les jeunes de 18-25 ans, 24 ans, et ce sont ceux qui ont voté pour Macron en 2017.
Donc, doit y vous avoir là les jeunes sont plus réticents.
C'est ce que disent les sondages. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un petit calcul politique derrière.
Bon, là, je crois que là, vraiment, c'est un peu une interprétation, parce que dire
c'est possible.
Non, il y a quand même un problème. D'inégalité qui aurait été soulevée. On le voit, on le sait, on est en France.
En France,
l'égalité est sacro-sainte et par conséquent, différencier ceux qui ont, qui ont pu avoir la chance d'être vaccinés et des autres, c'est vrai qu'il y aurait sûrement eu une polémique, effectivement, que le président n'a pas voulu.
Emmanuel Macron, il dit que le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de vie de tous les jours, comme les restaurants, les théâtres, les cinémas, etc.
Oui, mais en fait, l'opinion est très partagée.
S'il n'est pas requis, c'est qu'il ne sert à rien, finalement.
Mais il sera absolument requis dans les yeux.
Mais l'opinion est partagée.
Oui, donc ça ne sert à rien.
Bon, écoute, on va poursuivre ce débat dans un tout petit instant. Restez avec nous. Merci, les grandes voix.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h46, c'est la suite de votre débat des grandes voix du jeudi sur Europe 1, toujours avec Michel Cotta, Claire Chartier, rédactrice en chef débat et idée au magazine L'Express, et Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste au Figaro. Alors, à quand une vie normale ou presque? Ça y est, on connaît les grandes lignes, ça y est, du plan de déconfinement en 4 étapes qu'Emmanuel Macron détaille dans la presse quotidienne régionale, les modalités de la levée progressive des mesures de restriction. Emmanuel Macron, dans la PQR donc, mais aussi aujourd'hui dans la presse nationale, puisque chez nos confrères du journal L'Opinion, qui fête leur 2000e numéro, il écrit une petite tribune. Pour l'occasion, L'Opinion lui a demandé de décrire sa France de 2025 et de se projeter dans 4 ans, et le président a accepté de répondre à cet exercice. Michel Cotta, qu'est-ce qu'on apprend dans cette interview?
On apprend que le Macron d'aujourd'hui, ou plutôt le Macron de 2017, voudrait être le Macron de 2025. Évidemment, dans l'intervalle, les choses auront beaucoup changé, mais enfin, il répète son désir de réformer, de continuer à réformer, et la France et l'Europe. Mais c'est vrai que c'est un peu le discours qu'on attendait en 2017. J'espère que les événements qui sont passés dans l'intervalle, c'est-à-dire et les gilets jaunes et les différentes crises et la crise pandémique, ne changera pas quand même. Pour les gens, c'est difficile d'avoir le même langage pour lui qu'en 2017. C'est difficile.
Dans sa France de 2025, la santé serait l'un des piliers de sa politique. Ouais. C'est une façon pour lui de prévenir, certainement, Guillaume Tabar, qu'il faudra du temps pour tourner la page du Covid, que l'épidémie aura profondément bouleversé la vie politique de notre pays.
Oui, en même temps, je pense qu'Emmanuel Macron est conscient qu'une fois qu'on sera véritablement sorti de cette crise, alors quand je dis véritablement, ça veut dire avec une vaccination régulière et qui ferait qu'on pourra vivre normalement malgré un virus qui circulera, il sait que la vie reprendra ses droits et que les polémiques reprendront aussi leurs droits, et qu'il ne faut pas espérer sur le long terme être jugé uniquement sur la réussite ou l'échec de la gestion de cette crise. D'où l'insistance qu'il a dans L'Opinion ce matin, dans la PQR de demain, à insister sur la volonté de poursuivre ce mouvement des réformes. Le problème, c'est que dire qu'on réforme et réformer, effectivement, ce sont deux choses différentes. Et on a quand même connu bien des présidents qui ont été élus sur une ambition réformatrice, qui ont été rattrapés par des crises qu'ils n'avaient pas anticipées, sans que ce soit de leur faute, hein. Que ce soit la crise bancaire et financière de 2008, la crise du Covid maintenant, la crise du terrorisme pour François Hollande en 2015, tout ça, il faut faire face à tout ça. Et à chaque fois, les présidents disent « mais ça ne nous empêche pas de réformer ». Très bien, mais vous remarquez que ça fait quand même plusieurs mois que Macron répète ça. On continue à réformer, mais que les réformes, on ne les voit pas elles-mêmes. Et que lorsqu'on en évoque quelques-unes, par exemple celle des retraites, on dit « oh là là, c'est trop risqué, c'est pas prudent, on ne va quand même pas faire ça avant la présidentielle ». Voilà, réformer, ça veut dire changer quand même des habitudes ou des structures. Donc ça veut dire que c'est jamais quelque chose qui est une promenade de santé. On peut y renoncer parce qu'on estime que le pays est trop fragile. C'est une théorie possible. C'était en gros la vision qu'a longtemps eu Jacques Chirac. On peut estimer au contraire qu'il faut réformer malgré tout. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Mais maintenant, on va le voir à l'épreuve des faits.
À la question « vous allez réformer jusqu'au bout », il répond « jusqu'au dernier quart d'heure ». Ces 20 dernières années, nous avons pris trop de retard. Réformer, transformer, investir, ce sont les conditions pour défendre notre modèle social, ce que nous sommes, nous, Français.
On voit bien la difficulté qu'il a, en fait, Emmanuel Macron. Il est coincé par cette crise qui empêche en fait l'expression politique de l'action gouvernementale. En fait, il est coincé. Il est effectivement dire qu'il réforme avec cette contrainte-là, c'est extrêmement difficile. Le seul champ autre qu'il peut arpenter un peu, c'est ce qu'il fait, c'est la sécurité. Mais il y a pas grand-chose d'autre. En fait, le terrain est absolument, l'espace est totalement saturé. Et c'est très difficile pour lui de diffuser cette image qui continue à renverser la table, qui reste dans la transgression, pour reprendre l'expression d'un de ses lieutenants, Stanislas Guérini. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui bouscule le système aujourd'hui? C'est pas le politique, c'est le virus. Donc lui, pour rester et pour continuer à finalement diffuser auprès des Français cette image de progressiste réformateur, celui qui bouge, il est extrêmement coincé. Donc je pense qu'effectivement là, il a saisi l'occasion de remettre l'accent là-dessus, parce que ça tombe pas sous le sens.
Oui, dire qu'il veut réformer, c'est une façon de...
Il devra peut-être revoir son discours. À mon avis, à un moment donné, quand même, il doit différencier son discours de celui de 2017. Il doit au moins dire que la réforme est difficile. La preuve, c'est que pendant 5 ans, finalement, on a fait très peu. Moi, ça me paraît extrêmement difficile en 2022, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de dire je fais tout ce que j'ai dit que je ferai en 2017 et que je n'ai pas fait. C'est très, très compliqué.
D'autant qu'il a beaucoup changé en plus hein, depuis 2017, parce que le Macron de 2017 n'insistait pas autant sur...
Il y a de quoi changer.
Bien sûr, mais même dans les thématiques, hein, n'insistait pas autant sur la nation, la sécurité, enfin, relisez Révolution, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend là dans les thématiques qui reviennent. Donc l'image qu'il reflète aujourd'hui est très différente. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même, hein, comme message politique, à la fois de ressusciter en quelque sorte le Macron de 2017 et de le faire se conjuguer avec celui qui communique aujourd'hui, c'est pas simple.
Alors, il esquisse hein, quand même ses priorités pour 2022. Il dit la jeunesse, un nouveau modèle de protection sociale, le retour de la République dans une France unie et apaisée, oui. Guillaume Tabar.
Bah, j'ai envie de dire, est-ce que vous l'imaginez une seconde, dire le contraire,
bien
dire
sûr.
Non, les jeunes, on s'en fiche. La République, non, il ne faut pas qu'elle soit apaisée. Là, malheureusement, ça, je trouve que cette partie-là sent un peu l'incantation. Je veux dire que, un président qui dit oui, je gouvernerai jusqu'au bout. Bah oui, un président ne va pas dire Non, je vais m'arrêter 6 mois avant parce que je serai plus tranquille.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon de tordre le cou à ceux qui parlent d'un président sans vision qui gouverne au coup par coup?
Oui, mais il faut voir qui la donne. C'est-à-dire que dire la jeunesse est une priorité, c'est un thème. La jeunesse, c'est un thème. Ce n'est pas un projet. C'est-à-dire que le projet, c'est quoi? C'est est-ce que toute une jeunesse qui a accès au marché de l'emploi? Est-ce que c'est la jeunesse qui s'engage pour changer la société? Bon, dire la jeunesse, bah oui, on...
Oui, c'est une évidence. Il disait le contraire, effectivement. Alors, on lui pose quand même la question hein, dans la PQR sur sa candidature à un second mandat. Mmh. Cette crise a-t-elle conforté ce doute, puisqu'il avait laissé planer le doute sur sa décision en décembre, ou est-ce qu'elle l'a fait reculer? Il répond « Je me couche avec mes doutes, je me réveille avec des convictions reforgées, mais je serais bien intempestive de vous parler de mes ambitions personnelles dans la gestion d'un pays, etc. »
C'est une façon compliquée, je trouve que c'est une façon compliquée de dire quelque chose de simple. Je ne vais pas vous le dire maintenant.
Bon, il sera candidat à sa succession. Ouais. Il n'y a quasiment aucun doute là-dessus.
Et comme on sait qu'il dort très très peu, on sait que donc le temps du doute est très, très court.
Bien, avant de se quitter, je voudrais qu'on dise un petit mot sur les régionales en Île-de-France, puisque sans surprise, la présidente de région Valérie Pécresse est bien candidate. Elle l'a annoncé à nos confrères du Parisien hier soir. Largement en tête du premier tour sur l'ensemble des derniers sondages, Valérie Pécresse, est-ce qu'elle a un boulevard devant elle pour s'offrir un nouveau mandat en juin prochain?
Bah, il semblerait en tout cas qu'elle est effectivement très très bien positionnée, puisqu'elle est en face d'elle un candidat RN,
Jordan Bardella.
Jordan Bardella qui est quand même bien en deçà dans les sondages, et puis une gauche qui est c'est vraiment dispersée façon puzzle. Hein. Ils sont trois sur le terrain. Donc ça semble. Donc
Audrey Pulvar,
effectivement,
Julien Bayou,
en plus, elle a un très bon bilan. Il y a quand même les trois quarts des Franciliens qui sont contents de son action, ce qui n'est pas rien dans une époque où vraiment la politique est très discréditée, on ne fait plus du tout confiance, on est même découragé face à la marge de manœuvre des politiques, donc c'est vraiment pas rien. Et en plus, elle a une stratégie qui est assez maligne, à mon sens, c'est-à-dire que, contrairement par exemple à Xavier Bertrand, qui est un petit peu son rival à droite et qui est mieux placé pour être candidat et pour les présidentielles, elle argumente, en fait, elle n'a pas dévoilé son programme jusque-là. Là, elle a donné quelques éléments qui sont des éléments vraiment très régionaux. Elle ne va pas encore sur la stratégie nationale, alors que Xavier Bertrand, lui, il a tout de suite démarré en parlant d'immigration, de sécurité, jusqu'à l'âge de la retraite, donc dans une position de candidat. Et je trouve que c'est malin parce que ça lui donne une marge de manœuvre, sachant que si elle loupe cette marge régionale, c'est terminé, et elle-même le dit, comme Xavier Bertrand d'ailleurs. Donc du coup, c'est assez malin dans la progression et dans la
C'est vrai que son élection à elle, en tout cas, paraît plus facile que celle et de son élection au régional, hein. Paraît plus facile que celle, évidemment, de Xavier Bertrand, qui, lui, a une gauche qui s'est un peu reconstituée, un candidat Rassemblement National qui existe, et qui, vous vous rappelez, aux dernières élections régionales, a eu besoin, comme d'ailleurs en PACA, a eu besoin des voix de la gauche au deuxième tour. Donc c'est vrai qu'elle part sur un terrain plus stable et moins compliqué que celui de Xavier Bertrand, par exemple, ou du président de PACA.
Oui, moi je serais plus nuancé, parce que c'est vrai que la force de Valérie Pécresse, c'est son bilan. Et en plus, dans cette crise, elle a su exister de manière très forte sur la question thématique des transports, de la sécurité, etc. Donc ça, c'est vraiment un atout très fort pour elle. Elle est largement en tête au premier tour, c'est le cas. La gauche
est divisé, mais il ne faut pas oublier que les élections régionales sont des élections à deux tours et que des listes peuvent se regrouper. Et quand on fait le total des listes de gauche, des trois grandes listes de gauche, on arrive à un total qui est à peu près équivalent à celui de Valérie Pécresse. Et on voit bien que là, notamment ces jours-ci, il y a des petits frémissements unitaires. Alors, faut pas la gauche, elle, l'unité, c'est toujours très, très, très difficile et très, très long, mais eux-mêmes commencent à prendre conscience qu'il faut au moins qu'ils évitent toute agression. Donc je pense que, et puis vous voyez que cette gauche, cette région a quand même été à gauche pendant assez longtemps, et je pense que Valérie Pécresse est consciente que cette élection n'est pas jouée d'avance, c'est pour ça qu'elle se bat, c'est pour ça qu'elle essaye de bétonner son terrain à droite, si j'ose dire, de fait d'aller sur la sécurité vis à ça. Elle a la chance d'avoir un FN qui a toujours été plus bas dans cette région qu'ailleurs, mais je pense que ce sera un combat difficile. Qui fait que si elle le remporte, je pense que ce ne sera pas une formalité, ce sera vraiment une victoire qu'elle aura obtenue.
C'est un combat moins difficile, par exemple, que celui de Renaud Muselier à Marseille.
On n'a pas le temps d'en parler,
mais c'est un combat moins difficile que certains, quand même.
Bon, on suivra ça, évidemment. On vous retrouvera très bientôt. Merci à vous. Merci les grandes voix du jeudi. Dans un instant, toute l'info avec le journal de 19h de Christophe Lamarre.
Europe 1. Écoutez le monde changer.